How fuck should I know?
Ça va faire du bruit ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de scènes de crime, de scènes de rock, de Maccabée, de T-Rex, de Ziggy et même de Louise Bunuel. Avec Marc-André Grondin, double actualité, la nouvelle série Canal+, Spotless et Tudor Nicole, le nouveau film de Stéphane Lafleur pour deux ambiances, comédie noire à la télévision et cinéma expérimental québécois. Benoît Lagan.
Des quartiers chics londoniens aux scènes de crime sanglants, Spotless, signe le retour de Marc-André Grondin, ça c'est plus facile à dire, à la série télé. Pour un comédien qui dit avoir tout appris du métier en 10 ans de téléroman, il nous racontera.
19h30, la chronique revue et corrigée de Thomas Clair. Ce soir, à votre programme, Thomas, ce sera
Rock and Folk.
19h35, plateau Rock and Folk avec Jérôme Soligny qui signe Writing on the Edge et David Bowie ouvre le chien, soit 25 ans d'écrit rock pour un auteur-compositeur qui a écrit pour Étienne Dao, Manu Farine.
Mesdames et messieurs, public gracieux, faites confiance à Jérôme, il sait exactement de quoi il parle. Et c'est Brian Molko, de Placebo, ça je le dis pour Laurent, qui le dit.
Mais d'abord, c'est ça vous fait rire, Zoé Sfez.
La culture rock'n'roll de Laurent Wougmar, elle est belle.
Ariel Dombal, elle a fait du rock aussi. D'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez, que l'on ouvre sur le son du jour.
What the fuck is really going on? This dick ain't free.
When the four corners of this cocoon collide.
Ask where the jug at to impress me. Ask where it's at only upsets me.
When shit hit the fan, is you still a fan? Illuminated by the hand of God, boy, don't seem shy. I love my.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent Goumar, ça aussi c'est votre musique, je suis
sûre. Ah, ça j'adore en plus. C'est votre son du jour et il est cool.
Il est cool, alors c'est un délicieux montage de notre réalisateur Thomas Beau qui a mixé 6 extraits du nouvel album du rappeur californien Kendrick Lamar qui a volontairement fait fuiter son dernier album. C'est une petite révolution qui s'appelle To Pimp a Butterfly, 8 jours avant la date de sortie officielle, en prenant tout le monde de court, y compris même son propre patron label. Alors il a en fait publié un tweet la nuit dernière à 6h03 du matin, il envoie un lien iTunes vers son album explicite. Voilà, comme ça, il décide tout seul de le faire. Alors, en général, on fait fuiter son album avant sa date de sortie officielle, majoritairement quand on sait qu'il a été hacké. C'est ce qui s'est passé notamment pour Björk et Madonna, qui ont préféré sortir leur album avant qu'un hacker israélien ne le fasse à leur place. Beyoncé avait aussi un tout petit peu fait avancer la date de sa sortie d'album, elle, pour faire un coup marketing, et ça avait plutôt très bien marché. Mais on peut le faire aussi quand on veut faire embêter, on va dire, son patron de label. Et c'est ce qui s'est passé. Puisque Anthony Tiffis, le patron du label Top Dwag, a réagi sur Twitter très vivement. Je voudrais remercier personnellement Interscope, donc, qui est la sous-direction où travaille Kendrick Lamar, pour avoir fait foirer notre sortie d'album. Quelqu'un devra payer pour cette erreur. Donc là, c'est au moins très clair. Donc est-ce que c'est pour embêter son patron de label ou pour faire un coup marketing? Visiblement, c'est les deux, puisque c'est une énorme bombe que la critique parle déjà du meilleur album de hip-hop depuis 10 ans.
Tout de suite, on passe au dossier du jour. La mairie de Madrid a donné une conférence de presse pour annoncer triomphalement que les restes de l'un des plus illustres écrivains espagnols ont enfin été retrouvés. Il s'agit de Miguel de Cervantes, l'auteur de Don Quichotte, dont les restes étaient considérés comme perdus. Mais aussitôt faite, eh bien, l'annonce a été remise en cause.
Oui, alors c'est assez étonnant. Il y a une première dépêche, des premiers articles qui sont tombés en disant voilà, les restes de Cervantes ont été retrouvés. Ensuite, on a lu des articles qui expliquaient ils auraient été retrouvés, conditionnels. Puis carrément, à la fin de la journée, maintenant, il y a des points d'interrogation à la fin de cette annonce. Alors, je vous explique cette histoire. Miguel de Cervantes, qui est considéré comme le plus grand écrivain du siècle d'or espagnol, est mort en 1616 à Madrid. On sait, grâce aux archives, qu'il a été enterré dans une église du centre-ville de Madrid où il vivait. Sauf que cette église, elle a été détruite, qu'elle a été reconstruite à côté, un peu plus loin, au XVIIIe siècle, sans qu'on sache trop si les corps qui étaient enterrés y avaient été déplacés et où exactement. On n'en savait rien. Il y avait eu plusieurs recherches qui avaient été faites et où les gens étaient revenus bredouilles. Mais grâce aux moyens techniques modernes, les archéologues ont relancé les fouilles. Et il y a un an, ils ont découvert dans le couvent attenant à l'église des fragments d'ossements avec un pan de cercueil frappé des lettres M et C, les initiales de l'écrivain. Problème, il y a 15 corps dedans. Et donc, il fallait, depuis un an, essayer d'identifier celui précisément de Cervantes, dont on sait finalement assez peu de choses. Les seules sources qu'on a, elles viennent de lui-même. Et il n'a pas de descendants avec qui on pourrait comparer son ADN, comme l'explique Jean Canavaggio, le biographe et spécialiste officiel de Cervantes en France.
Lui dit bon, d'abord qu'il n'a plus que 6 dents, hein, il a perdu les autres. Bon, à une époque, effectivement, on les arrachait faute de pouvoir les soigner. Et puis, il dit qu'il a cargado espalda, c'est-à-dire qu'il a probablement de l'arthrose cervicale, vous voyez. Et donc, il était probablement voûté, vous voyez. Il parle de la maladie qui a provoqué sa mort, mais il en parle avec le vocabulaire qu'on utilisait à l'époque. Alors, certains disent qu'il souffrait d'hydropisie, d'autres qu'il avait, pas de l'emphysème. Enfin bon, on ne sait pas très très bien, en fait, de quoi il est mort, vous voyez. Puis alors, on dit qu'il faudrait faire un test ADN, et cet ADN suppose qu'on dispose d'un élément de comparaison. Or, le seul élément de comparaison qui aurait pu être fourni par les restes de sa sœur religieuse, enterrée à Alcala, mais ses ossements sont mélangés à d'autres dans un ossuaire.
Quel bordel. Jean Cannavaggio a suivi de près ses fouilles, puisque la découverte de ses restes pourrait l'amener à réécrire la biographie de Cervantes. Et il a été surpris de la manière dont les archéologues ont finalement précipité cette annonce.
Oui, puisqu'il suivait les fouilles et qu'il ne voyait pas tellement ce qu'il y avait de nouveau. Il n'est pas le seul à avoir été surpris, puisque lors de la conférence de presse qui a été donnée aujourd'hui, il y a eu une petite montée en puissance. L'équipe et la maire de la ville se sont carrément opposés aux journalistes, qui étaient très agacés par le manque de précision des experts, comprenant qu'en fait rien n'était très clair. Mouillez-vous, ont-ils dit aux archéologues, car en effet, la déclaration telle qu'elle a été faite lors de la conférence de presse n'est absolument pas catégorique, comme l'explique toujours Jean Cannavaggio.
Je traduis l'espagnol, il est possible de considérer que parmi les fragments que l'on a retrouvés, il y en ait qui soient de Cervantes. Nous sommes convaincus que nous avons quelque chose, quand même pas une information catégorique. Et bon, il y a beaucoup de coïncidences, disent-ils, mais ce qu'il faut quand même voir, c'est que dans cette boîte, il y a 15 personnes qui sont enterrées. Parmi les adultes, il se peut qu'il y ait Cervantes, mais il n'y a pas, par exemple, de traces des blessures qu'il a reçues quand il a combattu à Lépante. Hein. Il a été blessé d'un coup d'arquebuse à la poitrine et il a perdu l'usage de la main gauche. Je pense que du côté, si vous voulez, des politiques, il y a une pression pour dire « ça y est, on y est ». Et en particulier, Mme Botella, qui est la maire de Madrid, a dit qu'on allait aménager le couvent des Trinitaires, ça, pour en faire un lieu de visite touristique. Alors évidemment, vous allez avoir des hordes de Japonais, de Chinois, d'Américains, mais on n'en est pas encore là, vous voyez.
Voilà, alors, parce qu'effectivement, tout ça, ce serait très opportun d'avoir trouvé les os de Cervantes. Pourquoi? Parce que Cervantes, il est mort le même jour que Shakespeare, 1616, donc, et donc, l'année prochaine,
c'est Shakespeare qui est dans le cercueil.
Mais c'est ça, vous, allez-y, n'embrouillez pas tout.
Ils sont 15, Marcel Proust aussi.
Et en l'occurrence, voilà, l'année prochaine, on fêtera les 400 ans de la mort de Cervantes. Alors, en Angleterre, on fait des grandes pompes sur Shakespeare. Le problème, c'est que l'Espagne n'a pas beaucoup d'argent, n'a pas prévu beaucoup de choses pour fêter ces 400 ans de la mort de Cervantes, et que donc avoir retrouvé son fémur, ce serait fort opportun.
Et on appelle ça un dossier du jour. Qu'est-ce que vous allez nous réserver pour le 1er avril, les Espèces? Allez, on passe tout de suite au bref.
Et l'on ouvre avec le prix du roman des étudiants France Culture Télérama, et oui, qui vient d'être attribué après 2 mois de lecture, de rencontres, de débats. Les jurés, tous étudiants, ont décidé d'élire Elie Kreinhard, qui est lauréat donc pour L'amour et les forêts, qui a déjà reçu, je le rappelle, le prix Renaudot et le prix France Télévisions.
Aux éditions Gallimard, le chef iranien Ali Rabari revient à la tête de l'orchestre symphonique de Téhéran.
Il a joué hier la 9e symphonie de Beethoven et officialisé son retour au pays. Grand chef formé en Autriche, il avait pris la tête de l'institution en 2005, mais il avait fini par partir après l'élection de Mahmoud Ahmadinejad, estimant que la culture n'avait pas le soutien des autorités. Il a salué hier le président Hassan Rouhani, président modéré, qui veut, selon lui, rétablir les orchestres dans le pays.
L'un des plus importants conseillers en art allemand, condamné à 6 ans de prison.
C'était l'une des figures de la place allemande, Helge Achenbach. Il a été donc condamné à l'issue d'une procédure pénale qui a duré 2 mois, au cours de laquelle il a reconnu qu'il a commis des fraudes lors d'acquisitions d'œuvres d'art pour le compte de 2 grands collectionneurs. Le tribunal d'Essen a reconnu qu'il était au moins coupable dans 18 cas.
Et la dernière.
Et la dernière, c'est encore une histoire de musique puisque je trouve qu'on est un petit peu dans l'esprit. Alors si je vous dis Laurent, Sinéad O'Connor, à quoi pensez-vous?
Nothing compares to you, quand même.
Voilà, quand même. Mince, c'était écrit sur la feuille.
Extrêmement. C'est pas vrai.
Voilà, je ne vais pas faire vous l'affront de vous la chanter. Donc, c'est effectivement le grand tube de Sinéad O'Connor. Donc, un Nothing compares to you qui a été écrite, il faut le rappeler. Il faut rendre à César ce qui est à César, comme nous le disait Manu Farine, qui a été écrite par Prince, mais qui n'a pas eu un grand succès en 85. Elle a été réenregistrée donc, par Sinéad O'Connor en 90. C'est devenu un succès interplanétaire. Et voilà, alors, Sinéad O'Connor, ça faisait 9 mois.
Oui, parce que là, pour l'instant,
plus.
Ça faisait un peu fiche voilà, Wikipédia.
Ça fait un peu fiche Wikipédia, mais c'est pas ça. Ça faisait 9 mois que Sinéad O'Connor refusait de chanter cette chanson. Elle chantait pas vraiment cette chanson lors de concerts ou de festivals. Là, la semaine dernière, elle a donné un concert dans un festival en Angleterre, Bowl of Brooklands. Et elle a fini par commencer à chanter cette chanson, mais elle l'a fait sur le mode de l'ironie. de la blague, et de manière assez, on va le dire, impertinente, sans vraiment la chanter, ce qui a plutôt blessé ses fans. Elle a été obligée de dire ensuite, à la fin du concert, qu'en fait, c'est un concert qui avait lieu en pleine nature au bord d'un lac, qu'elle avait vu un canard qui était en train d'arriver sur scène, ce qui l'avait fait rire, c'est pour ça qu'elle n'avait pas été capable de chanter cette chanson. Et en fait, aujourd'hui, sur sa page Facebook, elle déclare qu'elle n'en peut plus de chanter ce titre, qu'elle va arrêter de le chanter. Elle n'a plus aucune connexion émotionnelle avec elle. Après 25 ans à chanter cette chanson, il y a environ 9 mois, j'ai finalement épuisé tout ce qui me permettait de mettre un tout petit peu, même un soupçon d'émotion dedans. Elle estime donc qu'elle mentirait au public si elle continuait à la chanter. Plutôt sympa de sa part.
Et vous pourriez la chanter ? Vous qui chantez si bien ?
C'est pas tellement ma cam, Sinéad O'Connor, malheureusement.
Je croyais que vous étiez rock.
Je suis rock, mais
en fait,
ça,
vous
c'est...
êtes comme moi, Jacques Demy,
suis...
quoi.
Jacques Demy, avant tout Jacques Demy.
Est-ce qu'il y a des réactions à tout ce que l'on vient d'entendre de la part de nos deux invités, Marc-André Grondin et puis Jérôme Soligny ? Jérôme Soligny, peut-être ?
Alors, au début, j'ai compris qu'il y avait un disque de rap qui avait fuité et aussi les restes de Cervantes. Donc,
ouais, voilà. c'était la même information.
C'est extraordinaire. Maintenant, Sinéad est une artiste exemplaire, capable de dire tout et son contraire dans la même seconde.
Ah, vous avez une expérience ?
Je l'ai pratiquée, si je peux me permettre.
Ouais.
En interview et sur scène, et même en co-organisateur de festival, puisque j'ai eu la chance de la faire jouer à Deauville, enfin, ou plutôt d'être dans l'équipe des gens qui l'avaient fait jouer, plus précisément. Et c'est un être complètement incontrôlable et incontrôlé, ce qui est formidable. Donc moi, je vous mets ma main à couper qu'elle rechantera cette chanson-là avant de mourir. Elle n'est pas la seule. David Bowie, un être très cher, avait dit en 90 « Je ne jouerai plus jamais mes tubes ». Mmh. Voilà.
On sait ce qu'il en est devenu. Marc-André Grondin, est-ce qu'il y a une autre information, ou même celle-là, qui vous a marqué dans tout ce que vous venez d'entendre ?
Non, mais je viens juste d'apprendre que l'album de Kendrick Lamar avait fuité, donc j'ai très hâte de l'entendre.
Ça a l'air pas mal, hein, d'après les sites.
Voilà, Beyoncé a dit qu'elle allait s'enfermer pendant 72 heures chez elle et se le passer en boucle.
Ah, mais si Beyoncé le dit.
On devrait tout faire, ça. On vient pas demain. On fait comme Beyoncé.
Le rendez-vous.
Allô, Nicole ?
Salut, pas.
Ça va ?
Oh ouais, vous autres ?
Ah, ça va, ça va. Et ton frère, t'as-tu appelé ?
Non.
Hey, brother !
Look who's here ! Look who's come to visit.
Surprise ! Shocked you ?
Yeah, you shocked me.
Plateau Grand Nettoyage avec vous, Marc-André Grondin, comédien québécois, César du Meilleur Espoir en 2008 en France pour le premier jour du reste de ta vie. Et puis surtout consacré il y a 10 ans avec le film Crazy de Jean-Marc Vallée. On vous retrouve cette semaine dans deux rôles de frères au cinéma et à la télévision. Au cinéma, c'est demain avec la sortie en salle de Tudor Nicole, le nouveau film de Stéphane Lafleur, dans lequel vous interprétez Rémi, le frère de la dite Nicole. Il est guitariste dans un groupe de rock et il profite de l'absence de ses parents pour investir la maison familiale afin d'y enregistrer un album sous le regard de sa sœur Nicole et de son amie Véronique, bien dessinée à n'en rien faire. Benoît ?
Et puis depuis hier, vous êtes le personnage principal de Spotless sur Canal+, une série franco-anglaise en 10 épisodes. On en entendait un écho en ouverture du plateau, mélangé avec un extrait du film de Stéphane Lafleur. C'est l'histoire de Jean Bastière, un Français exilé à Londres, spécialisé dans le nettoyage des scènes de crime et qui se retrouve à devoir travailler pour un important mafieux local avec son frère, un escroc et loser avec lequel il partage un lourd secret.
Vous devez donc, à longueur d'épisodes dans la série, nettoyer, voire reconstituer des scènes de crime et triturer des corps de Maccabée. Je suppose que vous avez dû être coaché. Quel geste, quelle technique vous a-t-il fallu maîtriser pour cette série ?
La mémoire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. Donc, j'ai pas une super mémoire. Je crois que j'ai peut-être une bonne mémoire à court terme, mais là, c'était assez intense. Sinon, j'ai fait un peu de recherche sur Internet sur les gens qui font ce métier.
Vous n'en avez pas rencontré ?
Non, malheureusement.
Ah ouais.
Mais il y a quelques petits docus qui existent, des interviews et tout. C'est fascinant comme boulot parce qu'on s'imagine évidemment l'odeur, les bactéries, les vers et tout ça. Mais au-delà de ça, ce qui est le plus triste, c'est que c'est un boulot très très, très dur psychologiquement parce que on est confronté. Ils sont confrontés à la solitude, à la mort, au deuil. Et je crois que en voyant ces quelques docus, moi, ce qui me touchait le plus, c'est justement ces gens qui sont découverts, des personnes âgées, qui sont retrouvées 3 mois plus tard parce qu'il n'y a personne qui les cherche. Je trouve ça très triste. Donc, c'est un boulot qui est très lourd, en fait.
C'est comme ça que vous préparez vos rôles, c'est-à-dire plutôt vous documenter par vous-même, mais sans chercher à rencontrer des gens qui ont pu pratiquer ce que vous allez interpréter à l'écran ?
Ça arrive parfois, mais généralement, je suis un peu un nerd. Moi, je Google tout, je recherche tout, donc si j'avais eu la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un qui fait ce boulot, je l'aurais fait. En fait, c'est un peu bizarre à dire, mais j'ai jamais senti l'odeur d'un cadavre. Et j'ai des potes qui habitent dans un appart et le voisin était mort, ils ont senti l'odeur et tout ça. Et tout le monde part de cette odeur qui reste avec toi et tout ça. Et ça, c'est un truc que j'aurais bien aimé faire. Ça sonne un peu louche, ça sonne un peu bizarre, non. Mais j'aurais bien aimé sentir l'odeur de la mort juste pour savoir à quoi est confronté le personnage à tous les jours, quoi.
Benoît. Alors, vous avez commencé très jeune, à 3 ans dans des publicités, puis dans des séries télévisées, sans avoir réellement appris le métier. Et votre école aura été, je vous cite, 10 ans de téléroman. Vous dites que tout ce que vous avez appris, vous l'avez fait sur les plateaux de Radio-Canada. Quelle école a pu être l'expérience du téléroman, qui est le feuilleton télévisuel au Québec ?
Ouais, ce qui est, en fait, le téléroman est très différent de la série, parce que le téléroman est entièrement tourné en studio. Mais c'est une bonne école technique, je trouve. Autant point de vue mémorisation de texte que juste la technique d'arriver sur sa marque pour pas bloquer le plan d'un autre acteur. Et quand t'es très petit, bah, tu répètes comme ça, tu répètes tous les jours. Et quand ça fait 10 ans, bah, c'est devenu une seconde nature. Et j'arrive sur des plateaux et les gens à la caméra sont très impressionnés que j'arrive toujours sur ma marque et tout, mais je suis pas meilleur qu'un autre, c'est juste que j'ai commencé très très jeune et ça fait un peu partie de moi maintenant.
Vous vous souvenez des premières techniques que vous auriez apprises sur Un signe de feu? C'est une série de Lise Payette tournée au Québec entre 89 et 91. Vous aviez, je crois, à peine 6 ans. Je dis ça parce que Lise Payette, elle est particulièrement connue au Québec pour être par ailleurs une écrivaine engagée, ministre de la condition féminine dans les années 70.
Non, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je me souviens de plein de petits bouts de mon enfance, mais Un signe de feu, pas vraiment. Je me souviens que mon frère était sur l'émission aussi et il jouait un autre enfant d'une autre famille. Donc on n'était même pas dans la même famille.
En parlant de famille, votre père Denis Grondin était animateur de radio, votre mère agent artistique. Quel était le cinéma ou la télévision que l'on regardait chez vous ?
On ne regardait pas énormément de cinéma ou de télé. Chez moi, c'était la musique surtout. Mes deux parents, à la base, avant de faire le métier qu'ils ont fait, étaient batteurs. Mon père a commencé la radio, il avait 19 ans. Donc j'ai toujours baigné dans la musique. Et quand j'étais jeune, ouais, voilà, je jouais avec les petites voitures et j'écoutais la musique que mon père écoutait.
Quel genre de musique il pratiquait ?
Un peu de tout, en fait. Mon père écoutait beaucoup de jazz, mais en même temps, il bossait dans une radio rock. Et ensuite, il a commencé à travailler dans une radio pop. Donc, il y avait un mélange de plein de trucs. Et mon père a animé et recevait les démos en fait, d'un concours de musique rock. En fait, de musique, pas juste rock, mais qui était assez important dans les années 90. Donc, pendant près de 10 ans, il recevait plein de groupes en fait, qui sont devenus des groupes très connus au Québec. Il recevait leurs démos et tout ça. Il écoutait ça, donc par le fait même, moi aussi.
Chaque soir, justement, nous demanderons nos invités de nous soumettre un son qu'ils aimeraient entendre. En ce qui vous concerne, Marc-André Grondin, voici ce que vous avez choisi et c'était très précis. I've been walking from 7 to 11 every night. It really makes a lot for dry. I don't think that's right, no. Identification de ce son et sa signification, cette version la précise, Marc-André Grondin.
En fait, j'ai découvert Led Zeppelin un peu tard, je trouve. Je devais avoir, je sais pas, 14-15 ans. Et je me suis mis à écouter beaucoup, beaucoup d'albums. Et mon père, un jour, m'a filé Live at the BBC, ce qu'on entend présentement. Et j'ai entendu Since I've Been Loving You, qui était assez différente de la version studio et ça m'a un peu ouvert l'esprit en fait. J'ai compris ce que les musiciens pouvaient faire quand ils étaient en communion, quand ils avaient trouvé les bons éléments pour faire un tout. Et ils jamment réellement la chanson un peu pendant un bout, un peu plus tard. Et ça me donnait vraiment des frissons. Et en plus de découvrir le son live de la batterie de John Bonham et la grosse caisse qui sonne, il n'y a aucun son comme ça, quoi.
Jérôme Sony, peut-être un commentaire sur ce que vous écoutez ?
Tu aurais pu être rock critique. C'est super bien ce que tu dis, et voilà quoi, je suis forcément d'accord, c'est un groupe monumental. Effectivement, tous les groupes de cette époque-là, il y avait les disques, et puis la façon d'appréhender la scène n'avait rien à voir. Alors moi je suis amateur d'un autre groupe de cette génération qui s'appelle Deep Purple, qui faisait des disques vraiment relativement orthodoxes, si je peux me permettre, avec des morceaux bon, très longs, mais voilà, relativement bien ficelés, enfin, voilà, avec un début et une fin, et sur scène c'était n'importe quoi. Sur scène il pouvait y avoir que 4 morceaux par concert, parce que s'il décidait de faire durer les morceaux 25 minutes, il les faisait durer 25 minutes.
Vous avez monté aussi des groupes, Marc-André Grondin ?
Oui, j'ai joué dans quelques groupes plus jeunes et en fait, ça marchait bien, je jouais de plus en plus et je faisais je faisais une série à la télé. Et à un moment, je me suis posé la question, est-ce que j'ai réellement envie de faire ça, de continuer à faire ça et j'ai décidé de me retirer de la série. Et
poursuivre une carrière de musicien.
Ouais, et en même temps, je voulais apprendre un métier, je voulais être ébéniste juste par curiosité, par envie. Et du coup, Crazy est arrivé et ça m'empêchait de vivre mon rêve de rockstar.
Vous continuez aujourd'hui à pratiquer de la musique ?
Un peu, mais bon, mes potes, maintenant, ils ont des enfants, des familles, des boulots. Ou sinon, ils jouent pour plein d'artistes et ils sont toujours en tournée. Donc...
Stéphane Lafleur, le réalisateur de Tudor Nicole, est par ailleurs musicien. Il a son groupe avec Pas de casque, qui a un certain succès au Québec. Et il monte ses films sous influence musicale. Jean-Marc Vallée, le réalisateur de Crazy, monte les siens comme un DJ. Il nous l'avait expliqué quand il était venu ici. Vous pourriez dire que cela se ressent dans leur façon de vous diriger, Marc-André Grondin ?
Stéphane et Jean-Marc sont très très différents. Jean-Marc met de la musique pendant qu'on tourne. Il met même la musique en audition. Donc j'ai vu des acteurs arriver en audition pour Jean-Marc. Ils sont hyper nerveux et Jean-Marc leur met une chanson et lui dit de faire la scène. Juste pour que la chanson les influence ou. C'est sûr, dans l'écriture ça se sent. Il y a un rythme. Jean-Marc, de toute façon, en plus, dans ses scénarios, il est très très précis. En plein milieu d'une phrase, il va avoir une parenthèse avec début de telle chanson et une page plus loin, fin de la chanson, après tel mot. Il est très très précis. Stéphane, c'est un peu différent, mais je crois que ces deux mélomanes, ces deux personnes qui ont une sensibilité à la musique, aux images, mais à la musique de la voix aussi. Donc ça se sent dans leur montage et dans leur façon d'écouter une scène.
Et vous, comme acteur, vous êtes plutôt un acteur des premières prises. Vous avez besoin de répéter plusieurs prises pour enfin que ce soit bon. Vous êtes plutôt dans quel cadre, vous ?
Non, je ne suis pas trop répétition. En fait, je suis un acteur de première prise, mais une semaine après le tournage, après le début du tournage. Donc, dans les premiers jours, j'ai un peu, il faut que je me mette un peu dedans et tout. Et après 4-5 jours de tournage, j'ai trouvé le bon temps. Et du coup, après 3 prises, normalement, on devrait l'avoir.
Pascal Chomeil, qui a réalisé les 2 premiers épisodes de Spotless, on lui doit en France la série Fais pas ci, fais pas ça, ou encore la comédie romantique L'Arnaqueur. Il dit que vous êtes un acteur de l'intériorité, contrairement à votre partenaire de jeu, Denis Ménochet, qui serait plutôt, lui, expansif. Il y a des comédies de jeu qui ont pu fonctionner comme référence pour cette série-là, en particulier le duo que vous formez.
Mais c'est drôle qu'il dise ça, parce que je crois que ça a plus à voir avec les personnages. Parce que Denis, il a une très très grosse intériorité. Quand il joue en gros plan, c'est assez... C'est assez déstabilisant. Il a une grosse puissance. C'est un acteur. En fait, moi, je me trouve très chanceux de pouvoir bosser avec lui. C'est devenu un très très grand pote. Mais même après 6 mois de tournage, je pouvais terminer une scène et aller le voir et lui dire c'est hallucinant ce que tu venais de faire. Donc, je crois que c'est plus son personnage qui est plus extraverti. Mais non, je crois que. Je sais pas, ça me surprend qu'il ait dit ça en plus, Pascal. Mais je pense qu'on m'approche beaucoup aussi pour des rôles plus intérieurs. Je sais pas exactement d'où ça vient, mais j'ai l'impression qu'on réussit à voir ce qu'on veut voir dans mes yeux quand je fais rien. Souvent, je peux même être assis dans une salle d'attente et quelqu'un vient me voir, ça va ? Puis je fais, ouais, ça va. Moi, t'as l'air triste. Bah, non, absolument pas. Juste, je crois que j'ai un regard assez neutre pour que les gens puissent projeter ce qu'ils veulent, leurs propres émotions dans mes yeux, je crois.
Vous avez tourné un film en Louisiane sous la direction d'un réalisateur français, Jean-Paul Salomé. Vous avez tourné sous la direction d'un acteur, d'un Américain, Steven Soderbergh, dans son film sur le Che. Est-ce que vous avez noté des différences d'approche entre la France et le Québec, entre les États-Unis et l'Angleterre, puisque vous avez vraiment une carrière avec tous les styles de jeu et notamment de direction d'acteur, est-ce que vous avez vu des différences entre le système francophone et le système anglophone, en fait ?
Pas vraiment, en fait. Il y a des différences techniques, évidemment, sur les heures de tournage, sur le nombre d'éclairagistes, sur plein de trucs qui sont peut-être pas vraiment intéressants. Mais non, en fait, il y a beaucoup plus de différences entre deux réalisateurs québécois, disons, ou deux réalisateurs français que qu'entre un réalisateur québécois et français ou américain. Steven Soderbergh, il était hyper relax. Il avait un énorme film. En fait, il faisait deux films à genre 30 millions, un truc de fou. Et il était là, il discutait avec tout le monde, très relax. Il opérait la caméra B. À un moment, il est venu me voir. Il me dit, après la deuxième journée de tournage, on l'attendait. Il me dit, tu joues de la musique dans des groupes, c'est ça ? Il a dû me googler, je sais pas trop. Mais ouais, en fait, je crois que les bons réalisateurs, c'est des gens qui sont investis dans leur projet, donc ils se ressemblent tous d'une certaine façon.
Le rendez-vous, la chronique.
Marc-André Gondin et Jérôme Soligny, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est la chronique du mardi de Thomas Clair, qui met une revue à son programme aujourd'hui.
Eh bien, Rock and Folk, oui, le mensuel du rock numéro 570. Je n'avais pas ouvert Rock and Folk depuis la sortie de l'album des Cure, The Top. C'était en 1984. À l'époque, ils étaient au top, moi aussi. Et j'en ai peur, Rock and Folk également. On ne se posait pas alors la question de savoir où va le rock, comme en couverture. On y allait. Des affirmations, pas d'interrogations. Boys Don't Cry, chantaient les Cure, même si c'était ironique. Ah, si je m'attarde sur The Cure, le remède, dont j'ai vu, moi qui vous parle, le premier concert en France en 79 au Bataclan, c'est qu'à la page 122 du magazine, une terrible photo de Léo Ferré sous les projecteurs rouges s'avère en fait une terrible photo de Robert Smith sous les projecteurs rouges. Et oui, as times go by, comme le temps passe, si le rock est un remède, c'est aussi un poison. Jacques Derrida l'a montré dans son analyse du pharmacon grec, qui veut dire une chose et son contraire. Le remède est le poison. Rock and Folk dit donc une chose et son contraire, comme une Fender un peu désaccordée. Il dit « cessons d'être nostalgiques », mais c'est sur l'air du « c'était mieux avant ». Il gueule « le rock n'est pas mort », mais avec une voix d'outre-tombe. Il cherche l'esprit de ses 20 ans en rendant hommage à Charlie Hebdo, Cabu 76 ans, Volinsky 80 ans, Honoré 73 ans. Vous me direz que le rock n'est pas une question d'âge, mais tout de même. En 1982, on parlait encore des Stones, qui ouvrent graphiquement le mensuel. Les éditoriaux étaient déjà signés Philippe Manœuvre. Rien n'a changé, Phil y est toujours aux manœuvres d'un magazine parfaitement rétro, où on se demande dans le courrier des lecteurs comment ne pas être un vieux con, où on déguste la nécro de Joe Cocker, où on évoque le combat des anciens et des modernes, et où, moi qui n'y connais rien, on se demande aux pages 58-59 si le groupe Vanilla Fudge est un groupe réellement 60s ou un groupe vintage parodiant la grande époque. J'ai même retrouvé la bonne vieille page Érudit Rock qui faisait ma joie, bien qu'elle soit ici consacrée à Black Sabbath, un groupe qui me faisait peur quand j'avais 15 ans et que j'écouterais peut-être quand j'en aurais 85. Même mon presque homonyme Serge Clair, dont j'ai toujours admiré la ligne du même nom, merci. Trust. Encore les pages de ce journal de quinquagénaire en évoquant pour la énième fois ses souvenirs des Clash. Quant à l'interview de Paul Persson, surtitré « Tout est rentré dans l'ordre », elle se tient, tenez-vous bien, au Hard Rock Café du boulevard Montmartre. S'il y a bien un endroit anti-rock, c'est ce bar de merde où s'entassent des millions de veaux standardisés all over the world. Allez, arrêtons le massacre. Ce qui sauve Rock'n'Folk et le rend intéressant, voire touchant, c'est sa parfaite conscience de la caducité, non pas du rock, car il existe évidemment d'excellents groupes, mais de son esprit subversif, qui ne peut plus être celui des late 70s, à cause de quoi, au fait ? Eh bien, c'est ça qui m'a le plus intéressé dans ce numéro. C'est le grand débat de 7 pages auquel se livre la rédaction, intitulé « Un Nirvana est-il encore possible ?» Un débat vraiment serré, drôle, vivant, contradictoire, assez technique, avec des phrases comme « On a vu les Datsun l'autre jour dans un état de paupérisation avancée » et qui s'expose, ce débat, qui expose sans phare les causes d'une régression du rock. Pour un tel, le public est versatile. Pour un autre, on est dans une ère pragmatique. Pour X, il y a une surmultiplication des groupes. Pour Z, le problème est dans le rock mainstream. Et même, l'argument suprême, le rock aurait été perverti par les gens de la fashion, la mode dévitalise tout. Et Philippe Manœuvre d'ironiser sur les t-shirts Motorhead, les mugs Motorhead, etc. Où est donc passé ce putain d'esprit rock ? Dans la littérature, peut-être ? Virginie Despentes apparaît page 75, elle-même affublée d'un t-shirt Motorhead. Despentes est un bon écrivain, mais qu'elle arrête de jouer les rebelles, elle nous casse les couilles avec son faux air Destroy. Je rappelle qu'elle a participé au recueil Louis Vuitton avec ses grands écrivains punk que sont Eliette Abécassi, Marie Dariussec et David Foenkinos. Le problème est là, tout se fait la malle, le folk, le peuple a été remplacé par le fake et bien souvent par des bobos. Et si Rock'n'Folk avait été, hypothèse ultime, bouffé par les Inrock?
Une réponse, Jérôme Soligny.
Ah, je suis d'accord avec rien, mais c'est bien torché. Mais c'est bien torché.
Avec rien, et plus précisément, quelle serait la remarque qui vous paraît
Philippe
la plus...
était rédacteur en chef en 82, donc il ne faisait pas l'édito.
Bon, parfait. Voilà.
Ouais. Non, mais sans blague. Non, mais on peut percevoir le journal comme ça, tout va bien. Heureusement, il est perçu aussi autrement, et tout va bien. Voilà, je pense que le journal, effectivement, s'adresse au quinca. Et puis, assez curieusement, dès qu'on fait la nécro Joe Cocker, c'est moi qui l'ai faite, c'est une commande. N'est-ce pas? C'est Joe Cocker est mort, Jérôme fait quelque chose parce que tu connaissais bien son premier producteur, enfin tu connais bien son premier producteur, et je l'ai fait. Et pour avoir fait ça, ça fait une vingtaine de messages Facebook de gamins qui disent merci parce que partout ailleurs on a dit que c'était un gros con. Voilà, donc je suis assez content d'avoir dit du bien de Joe Cocker.
Le rendez-vous.
Plateau Collection avec vous, Jérôme Soligny, musicien, journaliste, écrivain, conseiller de la rédaction de Rock'n'Folk depuis plus de 20 ans. Vous publiez coup sur coup aux éditions de la table ronde Writing on the Edge, 1714 pages, 51 chapitres qui collectent 25 ans d'écrit rock, soit une somme vertigineuse d'interviews, de textes critiques, de reviews d'albums, de Depeche Mode à Alice Cooper, en passant par Brian Ferry, Jimmy Page, Syd Barrett ou Étienne Dao. Et puis, vous publiez aussi un livre de circonstances qui rassemble des interviews autour de David Bowie et deux conférences données dans le cadre de l'exposition David Bowie Is à la Philharmonie à Paris. Titre
David Bowie ouvre le chien.
Un titre énigmatique dont on vient d'entendre la clé en ouverture de plateau avec l'extrait de All the Mad Men. Pourquoi ce titre? Et quelle est la clé, en fait?
Alors, en fait, pour faire très simple, j'ai été sollicité pour traduire les textes de l'expo il y a à peu près 2 ans. Et puis après avoir été sollicité pour ça, le collège de la Philharmonie, c'est-à-dire le truc un peu sérieux de la Philharmonie, m'a demandé des conférences. Alors j'ai suggéré 2 thèmes qui sont David Bowie et la France, un thème que je pensais qu'aurait pu être développé davantage dans l'expo, mais ça n'a pas été le cas pour des raisons diverses et variées.
Notamment son rapport à la littérature, hein,
vous
en parlez dedans.
Et puis j'ai aussi proposé une espèce de chronologie de Bowie à travers ses guitaristes, parce que je fais partie de ceux qui savent à quel point la guitare est importante dans sa musique, et je trouve qu'on pouvait baliser un peu son parcours musical avec les guitaristes. Toujours est-il que la conférence la plus importante qui a eu lieu la semaine dernière, c'était vraiment Bowie et la France, que je trouve qu'il y avait à développer là-dedans. Et quand il s'est agi en fait de trouver un titre, j'y réfléchis, et la seule chanson officielle de David Bowie dans laquelle il chante un vers avec 3 mots de français qui suivent, c'est donc l'ad-lib de All the Mad Men, où il chante, et comme on vient de l'entendre, ou plutôt de le discerner, parce qu'en plus il prononce mal le bougre, il chante une espèce de litanie où il fait Zain, 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 ouvre le chien, voilà, sauf que c'est un ouais, le chien. Alors, il y avait bien sûr le Heroes en français, que j'aurais pu mettre aussi, mais qui était un truc bon, plus spécifique. Ça, c'est vraiment sur un album. Puis ce que j'ai fait de gonfler, c'est que donc à une époque où David Bowie ne parle plus, soi-disant, j'ai préparé l'essentiel du chapitre avec Tony Visconti et Mac Garson, qui sont des amis proches, et donc qui sont le producteur et le pianiste de David Bowie. Et Ken Scott aussi qui m'a aidé. Et puis à un moment, je posais la question à Tony de dire, mais est-ce que tu sais exactement pourquoi est-ce qu'il a dit cette phrase, etc.
Ouvre le chien.
Quoi, ouais. Tout le monde savait depuis 1969 les théories. Tout le monde tourne autour du pot parce qu'il y avait effectivement un rapport avec peut-être Buñuel, tout ça. Et puis Tony m'a dit, tu sais quoi, t'as qu'à lui demander. Et je lui ai demandé, il m'a répondu, et non seulement il m'a répondu, en plus il me dit, bon, si t'as besoin d'autre chose, puisqu'il savait ce que je faisais, voilà. Donc voilà, je me suis permis de lui demander 3 bricoles dans le bouquin, et j'ai pas insisté, j'ai pas non plus fait une interview en propre de David pour ça.
Alors qu'est-ce qu'il vous raconte? C'est à la lettre Z, hein, d'ailleurs, c'est la dernière de l'abécédaire.
On a fait un abécédaire, donc à la lettre Z.
Vous expliquez cette histoire d'ouvrir le chien, et c'est...
Alors en fait, il explique que ça a effectivement un rapport avec le chien andalou, le film de Buñuel, et donc l'œil qui est ouvert avec une lame de rasoir, chose qu'on savait. Il faut savoir que ce film-là a été projeté en ouverture de la tournée qu'on appelle communément Station to Station, sauf en France. C'est-à-dire que les concerts qui ont lieu en France, notamment en mai 76, le film n'avait pas été projeté. Mais c'était un peu la première partie de cette tournée-là, quand elle était aux États-Unis et en Angleterre. Et puis aussi, effectivement, il m'a dit noir sur blanc, dans un mail, que ça avait un rapport direct avec la maladie mentale de son demi-frère, quelque chose qui l'a énormément perturbé pendant toute sa carrière, dont il a rarement parlé, mais là, en 3 lignes, il trouvait le moyen de me le dire, que c'était en fait pour lui une allusion aux deux. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt touchant de sa part de le dire, et puis d'abord de me répondre, et puis aussi de dire sur un sujet qui n'est quand même pas forcément évident à manier, surtout pour lui qui n'aime pas trop parler de sa famille.
Manu Farine.
Alors, Jérôme Soligny, vous l'avez évoqué là à l'instant. Donc, il y a ces deux conférences, dont cette seconde conférence qui retrace une histoire des guitaristes qui ont travaillé avec Bowie. Qu'est-ce que cette histoire parallèle met à jour dans le parcours et la musique même de Bowie?
C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte souvent que la musique de Bowie n'est jamais orthodoxe, on est d'accord. C'est-à-dire que quand tu fais du rock, c'est quand même un rock à la Bowie. Quand tu fais de la soul, c'est une soul à la Bowie. Quand il fait une espèce de folk hystérique à l'époque de Space Oddity, c'est quand même très très Bowie. On ne peut pas dire qu'il a fait du folk ou de la soul, etc. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que toujours, ces périodes artistiques sont vraiment rythmées par des guitaristes. Alors il y a bien sûr les grands guitaristes auxquels on pense dès qu'on pense à lui, c'est-à-dire bien sûr Mick Ronson, Reeves Gabron plus récemment, Robert Fripp sur Heroes. Puis il y a aussi des guitaristes qui sont un peu dans l'ombre. C'est-à-dire que j'ai un peu fouillé pour m'apercevoir qu'il avait joué avec John McLaughlin, qu'il avait joué avec Jimmy Page, qui n'est pas très original, puisque Jimmy Page a joué avec tout le monde. Mais enfin voilà, et puis j'ai voulu puis reparler de ceux dont on parlait un petit peu moins, dire précisément qui était Earl Slick, tout ça. Alors c'est un peu la conférence de geek, il faut avouer celle-là. C'est quand même celle pour les gens qui s'intéressent à ça. C'est pour ça que on a voulu faire une version lisible des conférences, et finalement on a plus développé la France, parce que je trouvais que c'était complètement incroyable que personne ne l'ait fait. Je dois vous avouer que quand on a pris cette décision juste à la sortie de Writing on the Edge de faire un petit livre pour réunir les conférences. J'avais dit à mon éditrice Alice Déon, tu vas voir, on va le faire, mais tout le monde va le faire dans les journaux. C'est un sujet tellement bateau, personne ne l'a fait. Donc finalement, on est quand même. C'est-à-dire qu'ils font maintenant en piquant des bouts de mon livre en disant pas que ça vient de moi, ce qui n'est pas grave.
Alors justement, qu'est-ce que vous mettez à jour dans cette histoire entre David Bowie et la France?
On a fait un espèce d'abécédaire. Mon ami Eric Daon m'a aidé à faire ça, qui est un autre éminent spécialiste, peut-être encore plus éminent spécialiste que moi.
Et qui préface aussi le livre.
Voilà, et donc on a essayé de parler de la relation artistique directe avec des artistes français qu'il aime bien, alors qu'ils sont bien sûr les auteurs, des cinéastes. On a ouvert aussi à la francophonie, bien sûr, on est obligé, puisqu'il y a Jacques Brel, il y a Guy Pellart aussi, une relation avec Guy Pellart qui a fait des pochettes de disques. Enfin, on a essayé de faire un truc qui soit, disons que la partie abécédaire est plus lisible, elle est moins justement pour les... Alors, j'y parle de Régis Laspalès et de Mireille Darc, par exemple, qui sont des fans indécrottables de Bowie, chose que les gens ne savent pas forcément. Et donc, voilà, j'essaie que ça ratisse le plus large possible, mais il y a aussi j'explique pourquoi une chanson a été inspirée par le même thème que celui qui a inspiré Truffaut pour L'Enfant Sauvage. Enfin voilà, c'est un pêle-mêle, quoi.
Marc André Gondin, comment fonctionne la référence à Bowie pour vous, si elle fonctionne?
Oui, elle fonctionne.
Quelle période pour vous?
Space Oddity, évidemment. Je crois que ça a eu un énorme j'allais dire poids, mais dans le sens positif, ça a un peu tout changé, cette chanson. Il n'y a pas un plateau où j'arrive, où je n'entends pas Space Oddity. Et c'est par Crazy que j'ai redécouvert Bowie aussi, sachant que j'allais faire, que je devais chanter la chanson et tout ça à cause de la scène. Je me suis replongé dans les albums de Bowie et ça a pris 8 ans ou 9 ans avant que je puisse réécouter du Bowie après le film. Donc là, j'ai recommencé.
Manu Farine.
Dans la préface qu'Éric Dahan consacre à ce Bowie donc, que vous signez, il est question de la critique rock à la française, opposée à la critique rock anglo-saxonne. Et Bowie explique que l'attention critique portée au rock en France a toujours été plus préoccupée d'esthétique que la critique anglaise ou américaine, qui, elle, serait plus sociologisante. Est-ce que c'est une ligne de partage que vous comprenez?
Oui, c'est un peu vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il fait allusion au fait que quand on parle à Bowie, il est toujours la première chose qu'il intéresse, la première chose qu'il demande. Quand il va arriver à Paris, par exemple, il appelle ses proches en demandant qu'est-ce qui se passe à Paris en ce moment. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a comme expo, qu'est-ce qu'il va pouvoir visiter, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et c'est vrai que dans les échanges que Eric a eu et moi aussi très régulièrement, on peut le dire, on a la chance de lui avoir parlé souvent, il est quand même tout le temps en train de faire des allusions à ce qui se passe et à la culture, des choses qu'on ne met pas dans les interviews, parce que ce n'est pas qu'on ne veut pas être pénible, mais c'est parce que en fait, ça part dans des références en permanence, c'est-à-dire qu'il a toujours des choses à dire, il a toujours un point de vue sur tout. Par contre, assez curieusement, moi qui lui ai parlé longuement la dernière fois que tout le monde lui a parlé, c'est-à-dire en 2003, je lui ai vraiment parlé longuement. Hein, je suis resté plus de 2h15 avec lui, ce qui fait quand même long pour quelqu'un mais de son fait, pas du mien. Si on reste avec 2h15 avec Bowie, c'est parce que c'est lui qui veut. En fait, il y avait toute une partie consacrée à la musique, toute une petite partie consacrée à l'art, puis après une partie consacrée à ses coups de gueule. Depuis maintenant 10 ans, c'était un type très en colère. vis-à-vis de beaucoup de choses, de ce qui se passe, de la jeunesse, de la situation politique, au Proche-Orient, tout ça. Il a des points de vue sur tout. Je me rappelle, je l'avais vu, moi, au lendemain d'une élection fâcheuse où le Front National avait manqué de nous faire une belle surprise, et il m'avait carrément engueulé cette fois-là. Il m'avait dit « Mais alors, qu'est-ce que vous foutez, les Français, là, ça y est, c'est la folie, vous faites n'importe quoi ?» J'ai dit « Moi, j'ai pas voté ça. » Il dit « Oui, mais enfin, bon, quand même, c'est le bordel. Enfin, » voilà. Donc maintenant, c'est un mec en colère. Mais effectivement, Eric a raison, il trouve que le contact avec la France et avec les journalistes français, à qui il a beaucoup donné, à qui il a beaucoup parlé, il est souvent dans des sphères qui ne sont pas forcément les sphères habituelles des journalistes anglo-saxons, même s'il y a effectivement d'éminents journalistes aussi en Angleterre ou aux États-Unis.
Alors, comme à tous nos invités depuis le début de la saison, on vous a demandé de nous apporter un son qui vous a marqué. Votre choix.
$6 in my hand, up to Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man.
Identification de ce son et la raison pour laquelle vous l'avez choisi.
I'm Waiting for the Man de Lou Reed et du Velvet, ouais. En l'occurrence de Lou Reed.
Jean Soligny.
Parce que je crois qu'on peut tout simplement dire que sans cette chanson-là, il n'y aurait pas eu David Bowie qu'on connaît. En tous les cas, sans cet album-là, sans ce groupe-là, c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est vraiment un des trois musiciens pour lesquels David a une vénération la plus totale, quoi. Et qui est réciproque d'ailleurs. J'ai eu la chance de côtoyer la bête une fois aussi. Là, pour le coup, j'emploie bien ce terme-là aussi. Il y avait un respect mutuel incroyable entre les deux, quoi. Et donc voilà, faut savoir que bon, maintenant tout le monde le sait, mais Bowie a découvert cet album-là très très tôt, puisque ce qu'on appelle l'acétate, enfin c'est-à-dire le disque avant qu'il sorte, avait été offert à son manager à la fin des années 60, même plutôt au milieu des années 60, quand il est sorti en tous les cas, et ça l'a retourné comme une crêpe. C'est-à-dire que c'est là qu'il a commencé à, alors que lui essayait des chemins différents, il cherchait à se trouver, ça l'a vraiment aidé à se trouver. Alors bien sûr, il y a eu les Stooges, Iggy Pop aussi après, mais le Velvet, c'est vraiment ce qu'il a le plus influencé, en tous les cas au départ, sur le plan musical, même si s'en est énormément émancipé. On ne peut pas dire que Bowie sonne comme le Velvet, à part dans la chanson Queen Beach où il en fait exprès, mais c'est aussi ça l'art de Bowie, c'est-à-dire de prendre des influences et puis de les régurgiter sans que ce soit des copies.
Est-ce qu'il y a eu un disque, un album qui a eu ce même rôle pour vous?
C'est-à-dire
que pour moi, un rôle de révélateur, un album de rock ou un
sûr,
album...
Bien sûr, bien sûr. Oui. Très honnêtement, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a acheté des singles de Michel Polnareff quand j'avais 7-8 ans. Et j'ai été complètement bercé par ça. J'ai trouvé que Polnareff était énorme. Je continue à trouver qu'il est énorme. Je pensais à cet âge-là qu'il était... le seul musicien français digne de respect, je continue à le penser, c'est une honte, hein, de dire ça, mais je le pense sincèrement. Et puis très très tôt, j'ai embrayé à 9-10 ans sur les Beatles, qui effectivement ont été le révélateur, et Bowie très tôt, voire trop tôt, à 10 ans et demi, Hunky Dory, la pochette d'Hunky Dory, même avant de l'écouter, j'étais bouleversé. Donc voilà, et après en le mettant, voilà, et puis je peux en parler avec des violons dans la voix, je vais éviter.
Thomas Clair,
moi qui suis un peu un sale gosse, j'aurais quand même vous poser une question qui me frappe, parce que je suis un grand fan de Bowie. Est-ce que vous ne trouvez pas que finalement il y a une dissymétrie profonde dans sa discographie, c'est-à-dire qu'il y a une première période excellente et puis qu'ensuite finalement ça commence à devenir beaucoup moins original que la grande période 60-70 jusqu'aux années 80? Voilà, moi c'est une question que je voudrais vous poser en fait.
Alors non, je ne pense pas ça, pour la simple raison que je crois que les disques qu'on fait quand on a entre 20 et 25 ans sont forcément très importants. Mm-hmm. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est la façon dont on les capte. Quand on est ado, on s'en prend plein la tête, plein les oreilles, plein le cœur pour pas un rond. Ces années-là, c'est fort. Maintenant, Bowie, à la différence de plein d'autres musiciens dont je peux être amateur par ailleurs, a toujours évolué. C'est-à-dire que quand il fait Young Americans ou Station to Station, prenons Station to Station, qui est encore pire, c'est un album mutant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ressemble à Station to Station. Le morceau qui ouvre le disque, d'ailleurs, il n'y a que 6 morceaux sur l'album, ce morceau ressemble à rien. Plus tard, il va encore refaire la même chose. Quand il décide de faire Tin Machine, par exemple, c'est quand même un choix artistique super bizarre, quoi. Il aurait pu passer les années 80 à faire Let's Dance 2, Let's Dance 3, etc. Non, il décide de faire des les musiques de films, de se retirer un peu, et puis finalement de revenir au sein d'un groupe en disant « on parlait moins qu'en tant que guitariste chanteur de Tin Machine », c'est une aberration totale. Et puis surtout, honnêtement, je pense que ce qu'il a fait au début des années 2000, même si ça a été contrarié par un accident cardiaque qui fait qu'il a pris une semi-retraite, on peut le dire en ces termes-là, puisqu'il a disparu, en tous les cas, des yeux du public. Je veux dire, Heathen, cet album qui est sorti donc au début des années 2000, est à nouveau un monument. Mais par contre, est le monument d'un mec mûr, et dont la perception, ma perception à moi, c'était celle d'un amateur de sa musique de 40 ballets. Là où vous avez raison, c'est que ce qu'on enregistre entre 20 et 25 ans, et puis la captation que les gens peuvent en avoir, c'est pas meilleur, ça a fait un effet plus bof, quoi. De toute façon, moi, rien pouvait me faire plus fort dans ma vie que la première fois que j'ai écouté Changes, où j'ai pleuré même avant qu'il chante, quoi.
L'introduction, vous dites, hein.
Oui, non, mais voilà, bon, j'ai rien compris. Il n'avait pas encore chanté que j'étais déjà effondré. Ma mère s'est dit, tiens, il y a une petite amie qui l'a largué, ou un truc comme ça. Enfin, à l'âge que j'avais pas de petits amis qui me larguaient vraiment. Mais enfin, bon, il y a un drame ou un truc comme ça, quoi. Je dis, non, maman, c'est la chanson. Elle m'a dit, bon, bah, je vais refermer la porte, tu vois.
Manu Farine.
Jérôme Soulignon, vous a demandé une petite playlist. Je crains qu'elle ne soit courte, mais on va quand même écouter le premier titre. I'm 18 and I don't know what I want. Just don't know what I want. 18, I gotta get away. I've gotta get out of this place. I'll go running in outer space again.
Alice Cooper. Voilà, moi je suis un gamin de la banlieue havraise, qui était dans une ville qui s'appelle Corioville, qui est une ville qui était assez dure, enfin en tous les cas, bon, ça ressemble pas trop à la banlieue parisienne quand même, mais bon, c'était assez dur dans les années 70. Voilà, quand j'ai découvert ça, c'était un peu l'anti-Bowie, c'est-à-dire qu'autant David était sophistiqué, etc., Alice apparaissait virulent, violent, avec des poubelles, des machins, des maquillages qui dégueulaient de partout. Mais bon, voilà, j'étais en 6e, 5e, ça m'a autant marqué. Et puis j'ai entretenu une super belle relation avec lui.
Ah, vous l'avez beaucoup interviewé.
Oui, je l'ai beaucoup interviewé. On se connaît bien. Voilà, on y va le voir en famille. On est toujours invité en famille maintenant. Et c'est quelqu'un avec lequel je suis très très fidèle, qui s'amuse énormément et qui donne vraiment du plaisir aux gens. Et voilà, moi, en continuant à faire cette musique-là avec des chansons absolument monumentales, parce que il y a 5 albums, là pour le coup on peut dire ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que vraiment les 5 premiers albums sont intouchables. Après ça s'est gâté, mais ça fait rien, il chante à 80% les 5 premiers, donc il est un peu d'accord avec nous.
Un autre extrait, un extrait qui a hanté notre réalisateur Thomas Beau pendant 24 heures, et je crois qu'il a trouvé la clé. Alors, quelle est cette énigme, Jérôme Soligny ?
Un énigme, c'est qu'entre autres défauts, comme je suis provincial, je suis fidèle en amitié. Et je suis fidèle aussi, peut-être aussi sur une espèce de veine professionnelle, même si ça ne peut, voilà, peut pas dire grand-chose dans mon cas, puisque ma situation est un peu désespérée. Mais le fait est que j'ai la chance de travailler avec Étienne Dao depuis...
Bah, vous avez écrit l'AB...
1986 maintenant,
Dieu un peu comme soleil.
Ça. Ouais. Et sur cet album Pop Satori, il y a plein de chansons qu'on aime en commun, Étienne, et on adorait donc le single Love at First Sight de The Geist, qui est en fait le groupe de Stuart Moxham, qui était le leader de Young Marble Giants, et qui a un projet parallèle. Et vous m'avez demandé ma playlist le jour où Stuart Moxham m'envoyait son nouvel album. Alors il est comme moi, Stuart Moxham, il a grossi du double, il a les cheveux tout blancs, etc. Mais à cause de cette chanson et à cause de Young Marble Giants, c'est pour ça que je me suis permis de dire ça. Effectivement, Étienne l'a repris en français, Paris le Flore sur Pop Satori.
Troisième extrait. If pain was a color to paint on you, your heart would be the color blue. Be a gradient from there until your body met your head, which remained a silver. Vous êtes à fond, Jérôme Soligny, vous faites même les gestes.
Ouais, je suis fan.
Qu'est-ce que c'est que
ça ? Je suis fan, amateur, ami hystérique d'un groupe qui s'appelle Portugal The Man, ce qui est donc ce groupe-là, qui est un groupe américain, originaire d'Alaska, qui habite à Portland maintenant. C'est des doudingues. C'est des types absolument charmants. C'est, voilà, mon fils est là, mais c'est, ça pourrait être mes enfants. Voilà, je vais le dire comme ça. Puis c'est pour tous les gens qui croient que parce qu'on est vieux et un peu con, on est capable de s'enthousiasmer pour des jeunes. Voilà, je les aime plus que tout. Philippe me laisse en parler dans Rock and Folk. On en parle dès qu'on a l'occasion. Ils seront en France sûrement cette année et tout. Et c'est absolument extraordinaire. Ça, c'est le quatrième album. C'est un peu compliqué parce qu'ils ont fait des albums sur leur propre label. Maintenant, ils sont signés sur une grosse maison et tout. Et c'est très intéressant à suivre. Et c'est des gamins. Et c'est des doudins, quoi. Ça fait plaisir à voir. C'est un peu le sentiment que des choses qu'on a pu faire n'ont pas servi à rien. Alors, ils n'ont pas lu Rock and Folk quand ils étaient jeunes. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, en tous les cas, on passe des bons moments ensemble. Ils sont allés voir l'exposition David Bowie à Sao Paulo et ils m'ont envoyé des SMS à la mitraille. On a dit, oh putain, on est devant les costumes, on pense à toi et tout, c'est trop beau, t'avais raison et tout. Je vois, mon portable n'a rien compris. Les SMS de Sao Paulo, je dois vous avouer que c'est les seuls que j'ai jamais reçus.
J'ai jamais senti l'odeur d'un cadavre.
Je trouvais ça plutôt touchant de sa part de le dire.
Merci à nos invités, Marc-André Grondin, Spotless, c'est depuis hier sur Canal+, et Tudor Nicole, ce sera à partir de demain en salle. Et puis Jérôme Soligny, Writing on the Edge et David Bowie, Ouvre le chien, ont paru aux éditions de la Table Ronde. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain. Demain, une émission engagée avec le réalisateur Avi Moghrabi et l'écrivain Yannick Enel. La désannonce, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Manu Farine, Aïssatou Ndoye et Elsa Béranger. Journal de la culture Zoé Sfez, chronique Thomas Clair, à la prise de son Dofar Guérid et Juliette Delperou, à la réalisation Thomas Beau.
Il est 19h54, vous êtes sur France Culture, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française.